Le texte de base de notre étude ce matin se situe dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 11. Je lirai les premiers versets et ensuite nous lirons quelques versets plus bas. En 2 Samuel chapitre 11 au verset 1er, voici ce qui est écrit. L'année suivante, au temps où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Je veux lire ensuite au verset 12. David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Verset 14, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Peuple de Dieu, ce matin, j'ai choisi d'étudier avec vous une histoire pas très agréable de la vie de David. En fait, une histoire très sombre de son existence. Parce que dans cette histoire, David, le roi, celui qui avait vaincu Goliath, se rend coupable non seulement d'adultère en convoitant Bathsheba, femme, épouse d'un soldat de son armée, et après avoir commis cet adultère, au lieu de se repentir et de demander simplement pardon à Dieu, parce que demander pardon à Dieu, c'est toujours le plus simple. David fait le choix de couvrir son péché, de masquer le forfait qu'il vient de commettre, par la pire des façons. Il écrit de sa propre main une lettre qui porte en fait le sceau de la mort d'Uri. Et il la confie à Uri lui-même, qui en repartant sur le champ de bataille, ignore qu'il transporte avec lui son arrêt de mort. Une situation extrêmement condamnable que celle dans laquelle David s'est mise. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec cette histoire, c'est que la vie de David ne s'est pas arrêtée là. Elle ne s'est pas arrêtée dans son péché. Elle ne s'est pas arrêtée dans sa chute, si profonde soit-elle. La vie de David ne s'est pas arrêtée dans ses échecs et dans la culpabilité. Il a réussi à se repentir par la suite et à revenir vers Dieu. Qui dira ensuite de David, « Celui-ci est l'homme selon mon cœur. » Quelqu'un a dit en parlant de David, « S'il était pasteur, il n'aurait la possibilité de prêcher aujourd'hui dans aucune église. » Parce que tout le monde le pointerait du doigt en disant, « Tu es un adultère doublé d'un meurtrier. » Mais je rends grâce à Dieu, parce que Dieu ne nous définit pas sur la base de notre passé. Vous le savez, nous sommes chrétiens évangéliques et donc nous appartenons à la grande famille des protestants. Et entre autres différences avec les chrétiens catholiques, nous avons également pour différence de ne pas avoir de pape à notre tête. Ceci dit, c'est tout de même un sujet d'actualité de s'intéresser à cet homme qui a reçu la lourde charge de conduire le milliard de catholiques qui se trouvent dans le monde aujourd'hui. Alléluia! Mais j'ai été particulièrement outré de constater l'attitude des commentateurs dès que son nom a été connu. Alors ils ont commencé à réfléchir sur son passé en disant certainement ce n'est pas le meilleur homme qu'il fallait pour ce poste parce que dans son passé, il collaborait avec le régime totalitaire du pays dans lequel il se trouvait. La même polémique avait suivi l'élection de Benoît XVI, dont on disait « Ce n'est pas un homme recommandable, il a participé aux jeunesses hitlériennes. » Et je réalise que cette même attitude se retrouve aussi dans le milieu politique. Lorsqu'un homme commence à être élevé en dignité, automatiquement la question de son passé se pose. Et l'on dit « Non, on ne peut pas voter pour cet homme parce que dans le passé, voici comment il a agi. Voici de quelle manière il a trompé les gens. » Donc aujourd'hui, il ne nous est pas possible de lui faire confiance. Et nous voyons cela tous les jours et nous entendons ces arguments que nous finissons par trouver normal. Mais d'où vient-il qu'un homme se résume à ses échecs passés? D'où vient-il qu'un homme ne se définit que sur la base des erreurs qu'il a commises avant? Il y a trois temps. Le passé, le présent et le futur. Et chacun d'entre nous, nous sommes riches de ces trois temps. Le passé, le présent et le futur. Quel que soit ce que vous avez fait dans le passé, bien-aimé, ne laissez personne vous culpabiliser et vous dire qu'aujourd'hui vous ne méritez pas le bonheur, car c'est un mensonge éhonté qui vient tout droit du fin fond de l'enfer. Dieu n'agit pas comme les hommes, et heureusement. Parce que s'il fallait définir chaque homme sur la base de ses échecs passés, dites-moi, qui serait qualifié pour nous conduire? Qui serait qualifié pour nous conseiller? Qui serait qualifié pour nous aider, pour nous porter secours? Parce que chacun d'entre nous, nous avons derrière nous des histoires que nous regrettons. Quelqu'un m'a dit une fois, si tu regardes un grand héros, sache que c'est simplement parce que Dieu lui a fait grâce et qu'il a laissé fermer le placard dans lequel gisent tous les cadavres qui jonchent son passé. Aujourd'hui, vous êtes ici et il est possible que vous essayiez permanemment de mettre une distance considérable entre votre passé et votre présent. Peut-être que vous vous sentez encore coupable pour des choses que vous avez faites avant. Mais le temps de la culpabilité arrive à sa fin. Dieu n'est pas comme les hommes. Et quelqu'un a dit, si jamais le diable vous rappelle votre passé, vous avez encore le pouvoir de lui rappeler son futur. Son futur, c'est de brûler dans le feu de l'enfer. Mais votre futur à vous, si vous faites les bons choix, c'est de vous retrouver dans la félicité avec votre Père. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé, de réfléchir aujourd'hui à ce que nous allons être dans les temps à venir, plutôt qu'à ce qui est passé? La Bible dit de Dieu qu'il jette nos péchés dans la mer de l'oubli et qu'il ne s'en souvient pas. C'est pourquoi nous sommes libres aujourd'hui d'aspirer au bonheur le plus parfait. Nous sommes libres aujourd'hui d'aspirer à l'épanouissement le plus total. Il n'y a rien dans notre passé qui puisse nous empêcher d'aspirer au meilleur. Dis à ton voisin, aspire au meilleur. Alléluia! Et vous voyez, Dieu a payé cher le droit de rester juste tout en nous jugeant, en ne nous jugeant pas pour nos péchés. Il l'a payé très cher. La raison pour laquelle Dieu peut aujourd'hui se payer le luxe de nous regarder comme si nous n'avions pas fait de faute, c'est parce qu'il a donné son Fils unique sur la croix du calvaire. Et donc, chaque fois que nous acceptons que nos péchés passés nous empêche de nous ouvrir à un avenir glorieux aujourd'hui, chaque fois que nous le faisons, nous invalidons le sacrifice de Christ. Et nous disons, Seigneur Jésus, malgré ton sacrifice, je suis toujours coupable. Malgré ton sacrifice, je ne mérite toujours pas d'être heureux. Malgré le sang versé, je ne mérite toujours pas de m'épanouir. C'est faux. Le sacrifice de Jésus est plus que suffisant. Son sang versé sur la croix du calvaire nous ouvre les portes du ciel et de la vie éternelle. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu oindouilles ma tête. Tu dresses une table en face de mes adversaires, le bonheur. Le bonheur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il y a comme un ordre ce matin que Dieu donne à celui qui personnifie le bonheur au milieu de ses anges. Et Dieu lui parle en disant: bonheur, je t'ordonne de t'attacher à la vie de mon fils ou à la vie de ma fille. Il y a comme une ordonnance qui résonne dans les lieux célestes ce matin, que Dieu adresse à l'ange de la grâce en lui disant: grâce, ton rôle, si tu l'acceptes, et d'ailleurs tu n'as pas d'autre choix, c'est d'aller bénir la vie de mon fils et de ma fille, parce qu'elle a droit au bonheur et à la grâce. Mais Seigneur, quel droit a-t-elle de bénéficier de cela, malgré ses erreurs et malgré ses péchés? Et Dieu, de sortir ton argent, son portefeuille, et de son portefeuille, il sort le sang de Jésus, en disant: j'ai déjà tout payé. J'ai payé le prix fort afin que mon fils, ma fille vivent dans une vie 5 étoiles. J'ai payé le prix fort afin qu'elles ne vivent pas dans la médiocrité, qu'elles ne vivent pas dans le manque, mais qu'elles vivent dans l'excellence. Les meilleures choses lui sont réservées parce que j'ai payé le prix. Jésus a tout payé pour toi. Tu as le droit d'être heureux. Alléluia! Tu as le droit d'être heureux. Ne laisse pas quelqu'un te mentir, de faire croire que tu ne le mérites pas, parce que nous n'aspirons pas à cela par mérite. Nous aspirons à cela par grâce. La grâce ne dépend pas de ce que vous faites. Elle dépend de ce que Dieu a dit et de ce que Dieu a fait. C'est la différence entre la foi et la religion. Bon, c'est un autre débat. Alléluia. Ma Bible me dit qu'au moment où les rois se mettaient en campagne, David est resté à Jérusalem. Et il a décidé d'envoyer Joab sur le champ de bataille à sa place. Tous les rois à cette époque se mettaient en guerre. David a décidé de ne pas aller dans ce combat-là. Si David était parti au champ de bataille, David n'aurait pas vu Bathsheba. David n'aurait pas commis l'adultère. David n'aurait pas commis le meurtre d'Uriah si, au moment où les rois se mettent en campagne, David aussi, comme tous les rois, s'était mis en campagne. Je dis aujourd'hui, ce matin, je veux vous parler de choix, en fait, le choix du bon combat. Le titre que j'ai donné à mon partage, c'est « Choisis le bon combat ». Je crois qu'il y a des combats que nous devons mener, pour lesquels nous sommes assurés d'avoir la victoire, et des combats que nous ne devons pas mener, pour lesquels nous nous sommes assurés de ne pas obtenir de victoire. David n'est pas allé dans ce combat, et le résultat, c'est qu'il s'est retrouvé dans le péché. Uriah, au contraire, est allé retrouver ses collègues sur le champ de bataille, mais cette guerre était la dernière qu'il connaîtrait. En parlant du royaume des cieux, Christ a dit ceci: maintenant, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Lorsque je regarde notre société mondaine, païenne, je réalise qu'il y a au moins une chose pour laquelle elle a pris exemple sur la cité céleste. De la même manière qu'il faut être violent pour s'emparer du royaume des cieux, de la même manière, dans notre quotidien, nous devons user de violence pour nous faire une place dans la société. Nous devons nous battre tous les jours et de façon constante dans tous les domaines de notre vie. Il faut se battre sur son lieu de travail pour obtenir des promotions, pour être le meilleur. Il faut se battre pour obtenir des augmentations de salaire. Il faut se battre pour ne pas devenir le souffre-douleur de ses collègues. Bref, dans le monde du travail, il faut se battre en permanence. Mais il faut se battre aussi pour sa famille, Et parfois même, il faut se battre contre sa famille. Parce que vous avez des familles dans lesquelles on excelle à s'affronter les uns les autres. Il faut se battre également dans ses relations pour qu'elles continuent à produire de bons résultats. En fait, nous devons nous battre partout. Il faut se battre dans ses études pour s'assurer d'avoir les meilleurs résultats, les meilleurs diplômes et s'offrir ainsi une place au soleil. Lorsque je regarde la violence aujourd'hui qu'il est nécessaire d'avoir dans cette société, je me dis il est possible que ce soit l'héritage de ces siècles de guerre qui ont contribué à façonner le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Je me dis qu'il est possible que ce soit l'héritage de ces luttes des classes ouvrières avec les classes bourgeoises qui ont contribué à façonner les structures économiques modernes. Je me dis il est possible que la violence que nous connaissons dans nos sociétés soit issue de cette histoire qui s'est construite de siècle en siècle. Et pour nous chrétiens, le combat est encore plus rude parce que nous sommes dans un monde dans lequel nous sommes en lutte et en combat, mais nous n'avons pas le droit de nous servir des mêmes armes que ceux qui sont dans ce même monde. Dans votre milieu de travail, tout le monde a le droit de dire des mensonges contre vous. Mais parce que vous êtes chrétien, vous n'avez le droit de dire que la vérité et la pure vérité. C'est pour ça que c'est difficile. Il faut éviter de tenter un chrétien de le faire passer pour un menteur. Parce que c'est déjà tellement difficile de rester intègre et de dire toujours la vérité. Même si vous êtes patron et que vous venez le traiter de menteur, il peut vous sauter dessus d'une seconde à l'autre. Parce que c'est un travail énorme. Les gens ne le réalisent pas. Laissez-moi vous raconter cette histoire. J'ai vu une dame sur mon lieu de travail qui était sur le point de faire un striptease. Elle était sur le point de se déshabiller complètement parce qu'elle a discuté avec quelqu'un. Elle a eu un problème avec une machine et elle a dit: voici, j'ai déposé de l'argent dans cette machine et ça n'a pas marché. Et ma collègue, très professionnellement, lui a répondu: est-ce que vous avez bien déposé l'argent dans cette machine? C'est la question qu'il ne fallait pas poser. Mais touchez-moi, venez me toucher pour vérifier. Elle a commencé à enlever son manteau. C'était terrible. Elle a commencé à enlever son manteau. Elle a balancé son sac. Elle a dit: venez me toucher. Et tu avais les gens qui disaient: mais non, madame, je ne vous toucherai pas, c'est contraire au règlement. C'était terrible. Elle s'est mise dans un état complètement hystérique parce qu'on avait remis sa parole en cause. Et les gens ne comprenaient pas. Mais moi, je me suis dit, si jamais dans sa vie, son principe de base, c'est qu'elle ne doit jamais mentir. C'est déjà extrêmement difficile dans notre société de vivre sans jamais mentir. Mais vous venez en plus encore en rajouter une couche en disant, mais peut-être que vous avez quand même menti. À ce moment donné, vous cherchez vraiment les problèmes. Les chrétiens sont dans la même configuration parce que c'est extrêmement difficile déjà de se faire une place dans cette société. Nous devons en faire une pour nous, pour nos enfants. Parce que nous avons droit au bonheur, alléluia. Cependant, nous devons le faire en respectant les principes de Dieu. En respectant des principes bibliques. Sans mentir, sans user de subterfuge, de dissimulation ou de manipulation. C'est de cette manière-là que nous devons avancer. Mais à un moment donné, lorsque vous vous êtes battu dans le monde du travail, que vous vous êtes battu dans votre famille, que vous vous êtes battu dans vos études, il arrive un moment là où vous vous dites: mais quand est-ce que je pourrais me reposer? Il arrive un moment là où vous vous dites avec raison: est-ce que toute ma vie sera uniquement une vie de bataille? Et j'ai sondé le cœur de Dieu cette semaine parce que ce cri montait de mon cœur et je disais à Dieu: Seigneur, à quand la trêve? Quand est-ce que nous aurons enfin du repos pour nos âmes? Jésus nous dit tellement de choses. Prenez mon joug sur vos épaules, mon joug est doux et léger. Et lorsque nous prenons son joug, nous avons le sentiment qu'il n'est pas si léger que cela. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et lorsque nous arrivons au pied de la croix, nous avons l'impression que la charge a doublé de volume. Alors, je sais que mon Dieu est vrai et que ce qu'il dit est la vérité. Et je lui ai dit, mais Seigneur, quand est-ce que nous expérimenterons vraiment ce repos que tu nous as promis? Est-ce que nous ne ferons toute notre vie que nous battre? Et ce matin, c'est cela que je souhaite étudier. La manière dont la Bible aborde la notion de combat, de bataille et de guerre. Mes amis, ce matin, je veux vous dire qu'il y a de l'espoir. Si vous êtes fatigué de vous battre, il y a de l'espoir pour que la tendance soit inversée. Ce matin, je vais vous donner un ensemble de principes, de règles et de secrets qui vous conduiront toujours à vous battre, mais à vous battre avec facilité, à vous battre dans le bonheur et dans la joie, à la différence de ce que nous expérimentons aujourd'hui. Au sujet des batailles dont il est question, Exode 15:3 nous parle de Dieu et nous dit que Dieu est le héros des combats. Notre Dieu est l'éternel des combats. La Bible nous dit bien effectivement qu'il est le puissant guerrier, qu'il est le héros des combats. Mais 1 Samuel chapitre 1 au verset 3 nous révèle un autre nom de Dieu. C'est un des noms de Dieu qui est utilisé près de 282 fois dans l'Ancien Testament. Ce nom, vous le trouvez en 1 Samuel chapitre 1 au verset 3, il dit « Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. » Vous connaissez également ce passage dans lequel David va confronter Goliath en 1 Samuel 17, 45 et lui dire « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » L'Éternel des armées, un nom que je connaissais et que j'utilisais régulièrement dans mes prières, particulièrement dans mes prières de combat. Éternel des armées, lève-toi et rends-moi justice de mes ennemis. Mais j'ai été amené à m'arrêter un peu sur le pluriel du mot armée. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que la Bible l'appelait l'Éternel, le Dieu des armées, et pas simplement l'Éternel, le Dieu de l'armée. Et j'ai tiré un enseignement des choses naturelles. Vous voyez, dans notre pays, il y a plusieurs armées. Nous avons l'armée de terre. Amen. Nous avons également l'armée de l'air. Nous avons aussi la marine nationale. Toutes ces armées-là sont unies par un seul et même objectif, celui de protéger les intérêts de la France. Par contre, chaque armée a un mode de fonctionnement, a un équipement particulier, a un uniforme spécifique. Et je réalisais qu'en réalité, pour ce qui concerne Dieu, il y a aussi, en fait, Dieu est également le chef de plusieurs armées. Pas simplement des anges, ou pas simplement de l'armée d'Israël. Mais il y a plusieurs corps de métier qui constituent la multitude des armées dont Dieu est le chef. Et il est le chef d'un nombre d'armées plus grandes et plus puissantes que toutes les armées de la terre réunies. Voyons par exemple Josué chapitre 5 au verset 14. La Bible nous apprend que Josué fait une rencontre et il demande à ce messager qu'il rencontre qui il est. La Bible dit, il répondit, je suis le chef de l'armée du Seigneur. Maintenant je suis arrivé. Josué tomba face contre terre, prosterné, et lui dit, « Qu'as-tu à me dire, mon Seigneur ? Je suis le chef de l'armée du Seigneur. » Donc, dans les corps de métier qui constituent les armées divines, il y a une portion qui est constituée d'anges. Cet ange dit, « Je suis le chef de l'armée. » C'est un groupe de l'armée de Dieu qui est constitué de myriades et de myriades d'anges. Alléluia! Mais l'armée de Dieu ne se limite pas seulement aux anges. Il est dit en Juges chapitre 5 au verset 20. Du ciel, les étoiles ont combattu. De leur route, elles ont combattu Sisera. Ésaïe 40, 26 dit, levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? En parlant des astres, c'est celui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Et il n'y en a pas une qui fasse défaut. Nous avons identifié que les armées de Dieu sont constituées en partie par les anges. Alléluia. Ces deux textes nous montrent aussi que Dieu est le chef d'une autre armée, que nous voyons chaque fois que le soleil se couche et que nous levons les yeux vers le ciel. La Bible nous dit que les étoiles font partie de l'armée de l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit même que les étoiles ont combattu contre Sisera. Jérémie chapitre 8 au verset 2 dit, des païens qui ont célébré les astres, on les exposera au soleil, à la lune et à toute l'armée du ciel qu'ils ont aimé, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivi, qu'ils ont cherché et devant lesquels ils se sont prosternés. Je tiens à ce que nous comprenions, en fait, que nous ayons un petit aperçu de la puissance de notre Dieu. Ésaïe 29, 6 dit, « Le Seigneur des armées interviendra chez toi. » Comment interviendra-t-il? La Bible dit, « Avec le tonnerre, un tremblement de terre, un grand bruit, avec l'ouragan et la tempête, et avec un feu flamboyant qui dévore. » Voyez-vous, la Bible nous fait réaliser que Dieu est le chef des armées célestes dans lesquelles il existe des anges, dans lesquelles on compte les étoiles, du nombre desquelles on compte également les éléments. Bien-aimés, vous comprenez pourquoi est-ce que c'est lui que nous devons prier? Parce qu'il n'y a aucune zone géographique qui ne soit pas couverte par sa puissance. Je ne sais pas dans quel niveau de ta vie tu es dérangé. Mais ce dont je suis certain, c'est que Dieu n'est pas en manque de soldats. Et il n'est pas en manque de guerriers pour te venir en aide. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation à notre Dieu? En réalisant sa toute puissance. Alléluia. En réalisant que rien ne lui est impossible. Amen. Et maintenant que nous avons montré toutes les armées qui constituent les armées dont Dieu est le chef, ou du moins une bonne partie de ces armées, je voudrais vous montrer que chaque armée a sa spécificité. Pour cela, je veux lire ce texte de Joël chapitre 2, entre le verset 7 et le verset 8. La Bible dit, en parlant de ce peuple qui constitue l'armée de Dieu, ils courent comme des héros. Ils escaladent une muraille comme des hommes de guerre. Chacun va son chemin. Ils ne quittent pas leur route. Personne ne bouscule son voisin. Chacun suit sa propre route. Ils se ruent au travers des projectiles sans rompre les rangs. La Bible nous montre que toute l'armée de Dieu, quel que soit le nombre dont elle est constituée, attribue à chaque individu qui la constitue un couloir spécifique sur lequel courir. Si vous faites partie de l'armée de Dieu, bien-aimé, je veux vous dire ce matin qu'il y a un couloir spécifique qui porte votre nom. Vous n'êtes pas venu marcher sur les plates-bandes de quelqu'un. Alléluia. Mais il y a un couloir qui porte votre nom précisément. La Bible dit que ce peuple qui constitue l'armée de Dieu marche et chacun suit son propre chemin, ton propre sentier, la propre voie de ta destinée est tracée devant toi à l'instant même, là où Dieu a la pensée de te faire venir sur la terre. Nous pensons parfois que Dieu est pris de court lorsque nous naissons. Je vous informe qu'il n'en est rien. Et que lorsque nous poussons notre premier cri à la gloire de Dieu, il a déjà préparé un chemin sur lequel nous allons marcher. Un chemin qui nous conduit à notre royauté et qui nous conduit à notre épanouissement. Quelqu'un dit Amen. Mais imaginons donc un instant que vous preniez un soldat du corps des marines et que vous lui disiez qu'à partir d'aujourd'hui, sans temps d'adaptation et sans formation, il devra aller sur les interventions, le champ d'intervention au Mali pour affronter les rebelles islamistes. Imaginez ce monsieur qui toute sa vie a été formé pour travailler dans la marine nationale. C'est même un plongeur. C'est un excellent plongeur. Son équipement est l'équipement d'un plongeur. Et le voici qui se retrouve sous le soleil du Mali, avec son équipement de plongeur, alourdi par sa bouteille d'oxygène, la bouche déformée par son tuba, avec son harpon, sans oublier ses palmes avec lesquelles il se déplace. Parce que, à la base, c'est un plongeur. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je dis, ce qui est vrai dans le monde spirituel, dans le monde naturel, est aussi vrai dans le monde spirituel. Si Dieu prend le temps de nous préciser aujourd'hui que chacun d'entre nous, nous avons une ligne sur laquelle nous devons courir, il veut nous dire également que nous avons un équipement qui correspond à la ligne sur laquelle nous devons courir, et que si nous prenons le risque d'aller courir dans le couloir annexe à notre couloir, nous allons être extrêmement ridicules parce que nous n'aurons pas l'équipement adapté à ce couloir-là. Est-ce que vous me suivez ce matin? Dis à ton frère, il y a un couloir pour toi. Ce qui s'est passé dans la vie d'Uri, mes frères et sœurs, c'est que Uri a été mis à un niveau du combat auquel il n'était pas habitué. Uri n'avait rien à faire au devant du champ de bataille. Uri, c'était peut-être, je ne sais pas, il est possible qu'il ait été un très bon archer. Vous savez, les archers dans une armée, ou du moins dans les armées de l'Antiquité, les archers étaient extrêmement importants. En fait, on ne commençait pas la bataille sans que les archers aient travaillé. Ils venaient, ils préparaient leur poste, et ils visaient, et ils abattaient un grand nombre d'adversaires. Sauf que, lorsque l'adversaire s'était rapproché, il ne fallait pas que les archers restent en place parce qu'ils n'étaient pas des hommes de corps à corps. Ils étaient efficaces dans leur rôle, mais à ce moment, les fantassins devaient prendre la relève et lutter dans le corps à corps. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia! Et en réalité, Uri s'est retrouvé dans un champ de bataille à un niveau du front pour lequel il n'était ni équipé, ni formé. Et le résultat qui s'en est suivi est sans appel. Uri est mort à ce moment-là parce que, à cause des manigances du roi, il s'est trouvé dans un terrain de bataille pour lequel il n'était pas préparé. C'est important pour nous de nous poser la question de savoir quel est le couloir sur lequel nous devons courir. Quel est l'équipement que nous avons reçu? Alléluia. Alors, puisque nous avons établi toutes ces particularités par rapport aux armées naturelles, la question qui viendra nous aider à répondre à notre interrogation initiale, c'est de savoir quelle est la spécificité de l'armée que nous constituons tous en tant que chrétiens. Nous voulons savoir quel combat nous devons choisir. Exode 14, au verset 14, dit ceci. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Je vais commencer à définir le bon combat que nous devons mener par les exclusions. En fait, je vais d'abord commencer à vous dire quels sont les combats que nous ne devons surtout pas mener. Dieu dit, pourquoi les enfants d'Israël crient-ils ? Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils gardent le silence. Dieu nous explique par là qu'il ne nous a pas établis afin que nous rentrions dans des joutes verbales avec tous nos contemporains. Il y a qu'il y a des situations dans lesquelles nous avons envie de répondre à ceux qui nous disent du mal, à ceux qui nous parlent mal. Alléluia. Mais il dit, gardez le silence afin que l'Éternel puisse combattre pour vous. Dans tous ces combats que nous menons, lorsque vous allez chez un commerçant et que vous êtes normalement un client et qu'on devrait vous traiter comme un roi, mais qu'il ne prend même pas le temps de vous regarder et qu'il vous répond avec la plus grande hargne dont il est capable et que tout en vous est en train de hurler, en train de dire « Mais comment est-ce qu'il peut me parler de la sorte ?» L'Éternel dit « Je n'attends pas de toi que tu cries. Tu n'appartiens pas au champ, à l'armée que j'ai établie pour qu'elle crie. Toi, ton rôle, c'est de garder le silence. » Dieu dit, lorsque vous êtes avec des collègues de travail qui se dressent contre vous, avec toutes les mauvaises blagues et toutes les mauvaises paroles qu'ils pourraient avoir contre vous, Dieu dit, vous, votre rôle, ce n'est pas de leur crier dessus. Il dit, pourquoi ces cris ? Il dit, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Bien-aimés, ce passage-là, nous devons pouvoir le comprendre dans tous les domaines de nos vies qui veulent nous obliger à ouvrir la bouche et à nous comporter comme ceux qui sont nos détracteurs. Dans tous les domaines de nos vies, là où nous avons l'impression qu'il nous faut absolument crier sur les gens, absolument parler aux gens aussi mal, au moins aussi mal que de la manière dont eux, ils nous parlent. Dieu nous dit, j'attends de vous que vous soyez capables de garder le silence. Ce n'est pas facile, bien-aimé, je le sais. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, si vous gardez le silence, alors l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. En Matthieu 10, au verset 19, il y a un autre élément que Jésus-Christ veut exclure de notre champ d'action en tant qu'armée de l'Éternel. Il dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Vous sera donné à l'heure même, ça veut dire c'est moi qui m'en occupe. Jésus-Christ parle à ses apôtres, à ses disciples qui vont constituer cette armée qu'il va envoyer pour gagner les nations. Il leur dit, dans le combat dans lequel je vous envoie, vous allez rencontrer beaucoup d'animosité, à tel point que les gens se saisiront de vous et vous livreront dans leurs tribunaux. Et Jésus dit, ce n'est pas à vous à ce moment-là de vous poser la question de savoir comment je vais me défendre, comment je vais me protéger. Et je crois qu'au milieu de nous, nous sommes nombreux ici à essayer quotidiennement de nous défendre nous-mêmes. Je crois que nous sommes nombreux ici aujourd'hui à avoir l'impression que si nous ne parlons pas, les choses n'iront pas en s'améliorant. Qu'il nous faut absolument prendre la parole, absolument nous défendre par nous-mêmes. Et Dieu dit, ce n'est pas ce que j'attends de toi. Ce que j'attends de toi, c'est un, que tu fasses silence. Deux, que tu ne t'inquiètes pas de ce que tu vas dire ou de la manière dont tu vas parler. C'est seulement à cette condition-là que l'Éternel va combattre pour toi. C'est seulement à cette condition-là que ce que tu dois dire te sera communiqué de manière surnaturelle. Alléluia. Jérémie 32 au verset 5 nous montre qu'il y a des combats que nous ne pouvons pas mener sous peine de défaite. Il dit, n'affrontez pas les Chaldéens. Il dit, si vous affrontez les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. Est-ce que vous comprenez bien que nous sommes pourtant le peuple de Dieu? Que notre Dieu est un Dieu de victoire. Amen. Notre Dieu est puissant dans les combats. Amen. Notre Dieu est un puissant guerrier. Amen. Dites amen bien. C'est ce même Dieu-là qui dit, si vous allez affronter les Chaldéens, vous n'aurez pas de succès. D'où vient-il que Dieu dise maintenant à son armée, vous allez échouer si vous allez dans cette guerre-là? Pourtant, ce n'est pas différent. Il y a des Chaldéens que nous devons identifier dans nos vies. En réalisant que si jamais nous affrontons ces Chaldéens, en fait, nous échouerons. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ce matin? Que la raison pour laquelle nous sommes fatigués de nous battre, la raison pour laquelle nous sommes épuisés dans nos luttes, c'est peut-être parce que nous ne sommes pas dans le bon combat. La raison pour laquelle nous nous lassons est certainement liée au fait que nous sommes sur un champ de bataille pour lequel nous n'avons pas été designés par Dieu. Nous sommes en train d'affronter des ennemis que Dieu ne nous a pas envoyés combattre. Nous sommes en train de les affronter avec un équipement qui est inadapté puisque Dieu ne nous a pas envoyé les combattre. Tout le monde aurait pensé que David se serait saisi de l'armure de Saül et de son épée pour aller affronter Goliath. Mais dans la pensée de Dieu, il fallait un autre équipement. Il fallait une fronde. Et comme tout le monde, nous allons dans ces champs de bataille avec nos épées, avec nos armes, avec notre langue bien fourchue et bien aiguisée, capable de remettre tous nos contradicteurs à leur place en quelques phrases, en quelques mots bien acérés. Mais Dieu nous dit, ce n'est pas ce qu'il attend de nous. C'est pour cela que nous sommes fatigués. Nous allons dans un commerce, on nous affronte, nous nous affrontons, nous nous fatiguons. Nous arrivons sur notre lieu de travail, c'est encore un champ de bataille et nous en sortons épuisés. Nous arrivons dans notre famille pour faire entendre notre voix, nous nous battons encore et nous en sortons épuisés. Et nous disons, jusque à quand Seigneur? Je dis ce matin que la raison pour laquelle nous sommes lassés de nous battre, c'est parce que nous ne menons pas le bon combat. Et la solution à notre lassitude et à notre fatigue, c'est que nous puissions déterminer avec précision le combat pour lequel Dieu nous a créés. Quelle est la lutte que Dieu nous a affectée? Voyez-vous, la Bible dit que les jeunes gens se fatiguent. Elle dit que les adolescents s'épuisent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La Bible dit qu'ils courent sans jamais se lasser. La Bible dit qu'ils prennent leur envol comme des aigles. Mes amis, il y a des passages bibliques, lorsque je les lis, moi j'ai envie de m'arrêter de lire. Parce que je vois comme une différence, une contradiction de ce que je lis et ce que je suis en train de vivre dans mon quotidien. Et je m'arrête et je pose la question à Dieu de savoir, mais Seigneur, puisque selon ta parole, je dois courir sans me lasser, est-ce que tu peux m'expliquer la raison pour laquelle je suis si là? La raison pour laquelle je me fatigue? Ta parole est la vérité. Ta parole me dit, je vais courir et je ne serai jamais fatigué. Mais après avoir couru quelques mètres seulement, je suis lassé, j'ai envie de tout abandonner. Ça vous arrive peut-être vous aussi. De vous dire, non mais je ne comprends pas, je suis chrétien. Le prophète a chanté, la force me vient de toi, Je suis censé recevoir la force pour lutter, pour me battre. Je suis censé ne jamais manquer de force. Mais Seigneur, j'en arrive à un point là où je suis à bout. Je n'en peux plus. Bien-aimé, si cette condition est la tienne, la réponse, la raison pour laquelle il y a un fossé entre ce que dit la Bible à ton sujet et ce que tu vis, c'est certainement parce que tu n'as pas bien choisi ton combat. C'est certainement parce que tu es en train de mener un combat que tu n'es pas appelé à mener. Un combat pour lequel tu n'as pas été équipé. Et tu as beau faire tous les efforts du monde, tu ne réussiras pas, tu te fatigueras davantage parce que ce n'est pas ton combat. Et parfois j'ai l'impression que nous n'expérimentons pas déjà assez de combats. Nous devenons experts pour aller nous jeter dans le premier combat qui se crée. Tu rencontres un passant dans la rue qui te parle mal, tu dis « lui, il m'a cherché ». Et tout de suite, tu rentres en affrontement, tu rentres en guerre avec lui. Parce qu'il n'aurait pas dû te déranger de la sorte. Nous nous embarquons, nous nous engouffrons, c'est ce qu'il faut dire, dans tous les combats qui se présentent à nous, sans vérifier si ce sont de bons combats. La Bible dit que Marthe n'avait pas choisi la bonne part. Marie avait fait le choix de la bonne part. De la même manière qu'il y a une bonne part à choisir, je dis, il y a aussi un bon combat à choisir. C'est un combat qui sera facile pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas rentrer dans ce combat, tu vas faire ce combat sur la base des talents et des dons que Dieu t'a donnés. Vous avez déjà essayé de prendre des personnes talentueuses? En fait, vous prenez 10 personnes. Une personne qui est talentueuse en dessin et 9 autres personnes qui ne le sont pas. Et puis vous leur donnez un modèle. Vous allez vous rendre compte que la personne qui est talentueuse va faire la chose avec facilité. Il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est danser. Ma femme passe son temps à se moquer de moi à cause de ça. Mais moi, je suis convaincu que quand je danse, Dieu est content. Et je reste subjugué lorsque je vois mon épouse ou bien mes petites sœurs se mettre à danser. Elles font de ces gestes. Je me dis, mais depuis quand l'anatomie humaine est-elle suffisamment flexible pour faire ce genre de... Simplement parce que ce n'est pas mon talent. Lorsque je vois cela, je trouve ça extraordinairement compliqué. Mais la personne qui est douée pour cela le fait avec une si grande facilité. Et avec joie, c'est quelque chose qui est épanouissant pour elle. De la même manière, mon frère, ma soeur, je veux vous dire ce matin qu'il y a un combat qui est épanouissant pour vous. Il y a un combat que vous allez faire le sourire aux lèvres. En fait, dès que vous allez sortir, dès que vous allez entendre que ce combat-là s'annonce, vous allez commencer à vous réjouir. Parce que vous saurez, dans tous les cas, que ce combat est le vôtre et que vous l'avez déjà gagné. Un combat dans lequel, lorsque vous allez poser le pied sur le champ de bataille, tous vos ennemis vont trembler parce qu'ils vont dire « c'est encore lui qui est venu ». Dans la mythologie, on nous parle d'un homme qui s'appelait Achille. Lorsque les gens savaient que Achille était sur le champ de bataille, quel que soit leur nombre, quel que soit leur entraînement, tout le monde tremblait parce qu'ils savaient que le talent de ce gars-là, c'était de se battre. Quel est ton talent? Quel est ton combat? Tu es fatigué aujourd'hui parce que tu choisis constamment de t'embarquer dans des mauvais combats. Mais j'ai une bonne nouvelle parce que je crois que ça va changer. Alléluia! La Bible continue à nous parler des choses qui ne sont pas réservées à l'armée des chrétiens. Éphésiens 6, 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Elle dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Si tu peux le toucher, cet homme ou cette femme qui se dresse contre toi pour t'embêter tous les jours, s'il est fait de chair et de sang, la Bible te dit « Tu n'as pas à lutter contre lui. » c'est peut-être un manager, c'est peut-être un employeur, c'est peut-être un cousin, une cousine, c'est peut-être une tante. La Bible te dit, s'il est fait de chair et de sang, tu mets une croix. Parce que tu n'as pas à lutter contre ce qui est fait de chair et de sang. Je t'ai établi afin que tu luttes contre les esprits. C'est important que nous comprenions ça. Parce que l'armée du Seigneur est particulière. L'archevêque Duncan Williams disait une fois, c'est la seule armée au monde. Bon, vous savez que dans une armée, quand vous allez sur le champ de bataille, et puis votre collègue de combat est blessé, il prend une balle, tout le monde se bat pour essayer de rapidement le mettre à l'abri pour qu'il prenne des soins médicaux, et ainsi de suite. Bon, dans l'armée des chrétiens, il paraît que c'est un peu différent. Quand on entend que tel frère a péché, tout le monde se lève pour le tuer davantage. Et vous avez les chrétiens qui se réunissent et qui font des conciliabules en disant « Oui, mais c'est normal qu'il ait péché. J'étais sûr qu'il avait péché. Un orgueilleux comme ça. J'étais sûr que cette fille aurait des problèmes. Elle est tout le temps méchante, tout le temps en train de... » Dans l'armée de Christ, quand on entend que l'un d'entre nous est tombé, on ne court pas pour essayer d'aller le soutenir. Malheureusement, on le condamne, on le juge et on fait tout pour le maintenir au sol, pour qu'il ne se relève pas. Parce que plus il est au sol, plus on a l'impression d'être en haut. Non seulement l'armée de l'Éternel, au sens de Joël, est censée courir chacun sur son couloir, mais dans le corps de Christ, non seulement on empiète sur les couloirs des autres, mais en plus, on se tourne les uns contre les autres. Dis à ton voisin, tu n'es pas mon combat. Dis-lui, je ne suis pas ton ennemi. Je ne suis pas contre toi. Je ne suis pas contre ton succès. C'est important que nous comprenions ça dans l'église. Parce que sinon, nous allons nous tromper de combat. Toi, tu es quelqu'un d'extrêmement talentueux pour emmener les gens à réfléchir sur leurs actions. Mais au lieu d'utiliser ton talent pour gagner des âmes à Christ, tu vas utiliser ton franc-parler justement pour détruire ceux qui sont autour de toi parce que tu te dis, ils sont en train de lutter contre moi. Non, je ne suis pas ton combat. Nous devons comprendre ça dans la maison de Dieu. On ne vient pas à l'église pour se battre les uns avec les autres. Nous sommes unis les uns et les autres pour un objectif commun, celui de faire avancer la cause du royaume des cieux. Donc si mon frère réussit, je dirai gloire à Dieu. Si mon frère avance, je dirai gloire à Dieu. Parce que c'est la cause du royaume des cieux qui avance. Or, lorsque je tourne mon épée contre mon frère, contre ma sœur, ce n'est pas simplement un homme ou une femme que je suis en train de limiter. C'est la progression de l'œuvre de Dieu que je suis en train de limiter. C'est important de pouvoir choisir le bon combat. Jusqu'à présent, beaucoup d'entre nous, nous choisissons les mauvais combats. Vous imaginez un peu, chrétien contre chrétien. Chacun est en train de prier. Seigneur, le frère Paul m'a mal regardé hier. J'ai besoin que tu le juges maintenant. Et puis le frère Paul là-bas. Seigneur, la sœur Eliane, elle me regarde toujours de haut en bas. Je veux maintenant que tu la juges. Vous imaginez ce Dieu qui est au ciel? Il voit les puissances des ténèbres qui se lèvent pour emmener le monde à davantage d'esclavage. Et il regarde les membres de son armée et il les voit les uns les autres en train de se taper dessus. Vous savez, pourtant, cela, c'est le comportement qui est l'apanage des puissances démoniaques. Parce que comme il n'y a pas d'amour au milieu de ces puissances, on dit que la seule chose qui leur permet de marcher en ordre et en ordre de bataille, la seule chose qui permet aux démons de marcher en ordre de bataille, c'est la peur qu'ils ont de Satan. Et c'est un règne de terreur que le royaume des ténèbres. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans le corps de Christ. Quelqu'un m'a raconté une histoire, je crois que je vous l'avais partagée il y a de cela déjà, peut-être quelques années même. Une vision qu'il avait eue du paradis. En fait, Dieu a transporté son esprit et lui a donné une vision, d'abord une vision de l'enfer. Et il rentre dans cette vision de l'enfer et qu'est-ce qu'il voit? Il décrit une belle salle très grande, c'est l'enfer. Une salle très grande, très belle, très lumineuse, un peu comme il y en a dans les cinq étoiles. Et il voit une table dressée avec des mets de très haute qualité. C'est dans l'enfer qu'ils sont. Et il voit tous les gens qui sont censés être dans l'enfer, qui arrivent pour s'asseoir autour de cette table et pour partager le repas qui a été préparé pour eux. La seule particularité de cette table, c'est que ils avaient des cuillères qui étaient grandes comme cela. Et donc, on dit, vous pouvez commencer à manger. Et chacun en prend sa cuillère, la plonge dans le plat. Mais le temps qu'ils réussissent à ramener la nourriture dans son assiette, tout est déjà renversé sur la table. Et puis, il refait une autre tentative. Et puis, le résultat est le même. Ils étaient donc attablés avec un repas de roi, mais personne ne pouvait en manger parce qu'ils avaient des cuillères inadaptées. Alors, il se dit, mais quelle est donc cette vision? Et puis, Dieu le transporte maintenant au paradis. Et au paradis, il a exactement la même image. Exactement la même salle lumineuse. Exactement la même table, exactement les mêmes aliments et exactement les mêmes cuillères. Sauf que lorsque les gens s'attablent, le premier prend de la nourriture dans sa cuillère et il verse dans l'assiette de celui qui est en face. Le second prend une autre cuillère et au fur et à mesure, parce qu'ils ne peuvent pas ramener la nourriture à eux, ils prennent le temps de donner d'abord. Véritablement, ce qui nous distingue du monde, je veux que vous le compreniez par cette image, c'est notre amour. C'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Sinon, nous sommes exactement comme les païens. Alléluia. Et donc, le bon combat doit être identifié. Si nous voulons véritablement vivre de façon épanouie, de façon simple, dans la paix. Vous avez envie de vivre un peu comme ça? Je ne sais pas, est-ce que vous n'en avez pas assez de courir en permanence et de vous battre en permanence? Je crois que le plan de Dieu n'est pas autre pour nous. C'est justement que nous puissions vivre comme cela. Je vous ai dit que nous avions des spécificités et donc nous avons également des équipements spécifiques. 2 Corinthiens 10, 3 au verset 5, 3 à 5 dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. » Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, parce que les armes que nous avons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Il y a un problème dans cette phrase. Parce que lorsqu'on implique « mais », normalement, on doit introduire une contradiction. Et en fait, la contradiction ici est sous-entendue. Elle est implicite. Elles ne sont pas charnelles, je me disais que Paul dirait « elles ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. » Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont... Voilà. Vous voyez, vous avez envie de dire aussi « elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. » Mais l'apôtre Paul dit « elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. » Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si elles sont charnelles, elles ne sont pas... C'est pour ça que tu te fatigues. Parce que tu utilises les armes charnelles. Tu deviens semblable à quelqu'un qui veut nettoyer tout un autocar avec une brosse à dents. Parce que tu utilises des armes charnelles. Quelqu'un te fait du mal, tu veux lui faire exactement le même mal qu'il t'a fait de la même manière. Il m'a mal parlé, je lui parle mal aussi. La Bible dit, si vous faites avec les armes charnelles, vous allez vous fatiguer. Parce que vous allez manquer de puissance. C'est ça le secret. C'est ça le problème. C'est ça qui conduit à la lassitude. C'est que nous n'utilisons pas les bonnes armes. Paul dit, ces armes que Dieu a mises à votre disposition pour que vous soyez heureux ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ça veut dire que nous n'avons pas à agir avec les gens exactement comme les gens agissent avec nous. Alléluia! Nous devons être capables de hausser les standards de nos réactions. Amen. Alors, qu'est-ce que le combat que vous devez mener, que nous devons mener? Vous avez envie de connaître le bon combat? Vous avez envie de connaître le bon combat? C'est l'apôtre Paul qui parle du bon combat. Il dit en 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 19 dit, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Paul parle du bon combat. Et j'ai eu à cœur de savoir exactement ce qu'était le bon combat. En 1 Timothée chapitre 6, au verset 12, il va nous apporter un éclaircissement supplémentaire en disant à Timothée, « Combat le bon combat de la foi. » Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voyez-vous, mes bien-aimés, chaque passage dans lequel Paul parle du bon combat, il y a un mot qui revient, c'est la foi. Le véritable combat que nous avons été équipés pour mener, c'est le combat de la foi. Ce n'est pas le combat des arguments. L'apôtre Paul dit, « Quand je suis venu vers vous, ce n'était pas avec des discours persuasifs basés sur la sagesse, mais avec une démonstration de puissance. » Il dit, « Le bon combat, celui que nous devons nous battre pour mener et pour achever, c'est le combat de la foi. » Réfléchissons un instant à cette ordonnance divine. Il dit, « Je ne veux pas que tu te battes lorsque l'on te parle mal au travail. Je ne veux pas que tu te battes lorsque dans ta famille tout le monde est contre toi. Je ne veux pas que tu emploies de mauvaises paroles. » Il dit, « À ce sujet, garde le silence, moi-même je m'en occupe. » Mais il dit, « Ce que je te demande, c'est que tu combattes le combat de la foi. Que tu te battes jour après jour pour continuer à croire que les choses vont changer. Que tu fasses un travail sur toi-même tous les jours pour refuser de considérer que Dieu ne fera plus. Le combat que nous devons mener et que nous avons été équipés pour mener, en réalité, mes bien-aimés, c'est le combat de la foi. C'est ça le combat agréable pour nous. Parce que lorsque vous êtes dans la foi, l'angoisse des autres combats ne peut pas venir vous atteindre. Il y a un problème au niveau de tes finances, Dieu te dit, je ne veux pas que tu fasses un autre combat que le combat de la foi. Commence d'abord à croire que je peux changer le paysage économique de tes finances. Il y a un problème dans ta santé, Dieu te dit, je ne veux pas que tu ailles te battre avec les médecins. Oh les médecins. Que Dieu les bénisse tous. Absolument tous. Vous avez déjà eu l'impression d'être en guerre avec votre propre médecin? Parce qu'il vous donne un traitement qui est inadapté ou bien parce qu'il ne croit pas ce que vous lui dites? Dieu dit, je connais une dame comme ça qui avait traité les médecins de sorciers. Vous êtes des sorciers, vous voulez me donner du... Bref. Mais parfois, on a l'impression que c'est ce qu'il demande. Mais Dieu dit, même dans une situation de santé difficile, je ne te demande pas de t'ériger contre les gens qui te prodiguent des soins médicaux. Il dit, ce que je veux, c'est que tu manifestes ta foi. Hein. Lorsqu'elle était enceinte de notre fils Nathan, les médecins ont dit à ma femme que notre garçon devait, en fait, était trisomique. Que dans les images qu'ils avaient eues, sa langue pendait et qu'il allait naître malade. Et donc la solution, c'est qu'il fallait avorter. Chaque fois que je regarde Nathan, je pense à tous les enfants qui meurent dans le monde à cause des faux diagnostics des médecins. Si nous n'avions pas été chrétiens, je ne sais pas quelle est l'action que nous aurions posée. Nous avons choisi de mener le bon combat, le combat de la foi. Et nous avons continué à croire en Dieu, même lorsque les imageries médicales n'étaient pas exactes. Et c'est ce combat de la foi-là que Dieu nous demande de mener. C'est celui-là qui crée le miracle. Amen. Mener le combat de la foi. C'est mener le combat de la foi qui produit le miracle et un véritable changement. Dieu ne nous demande pas de nous battre contre les médecins qui racontent des inepties, de nous battre contre les employeurs qui manquent d'honnêteté et d'intégrité. Dieu ne nous demande pas de rééditer la lutte des classes. Alléluia. Dieu nous dit mener le combat de la foi parce que c'est la foi dont nous avons besoin. Écoutez, je veux vous faire comprendre que nous sommes une élite dans l'armée de Dieu. Dieu n'a jamais demandé aux anges d'avoir la foi. Dieu n'a jamais demandé aux étoiles d'avoir la foi. Dieu n'a jamais demandé aux éléments d'avoir la foi. Il dit aux hommes d'avoir la foi. Parce que la foi, mes amis, est en réalité l'essence, le carburant qui fait tourner la machine du miracle. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de vivre dans le miracle. Dieu dit, tu as été guéri, en fait ta foi t'a guéri. Et Dieu dit aujourd'hui à son armée, à tous les chrétiens de par le monde, vous vous êtes longtemps dispersés dans de multiples combats et dans de multiples luttes. Il est temps que vous reveniez à ce pourquoi vous avez été créés. Et ce pourquoi nous avons été pensés par Dieu, mes frères et sœurs, c'est pour avoir la foi en lui. Et pour lui dire envers et contre toutes circonstances, Seigneur, je continue à croire en toi. Seigneur, même lorsque la tempête se lève, je continue à croire que tu vas changer mes circonstances, que tu vas changer mon histoire, que tu vas changer l'histoire de ma famille. La seule chose qu'il te demande, c'est de mener le combat de la foi. C'est le combat de la foi qui a permis à l'apôtre Paul, même vieillard qu'il était, de continuer à se réjouir en disant « J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » La mort arrivait devant Paul, mais Paul ne tremblait pas d'un iota. Paul ne sourcillait même pas devant la mort parce qu'il savait que la chose que Dieu lui demandait, c'était la foi. Il dit « J'ai achevé la course. » Je dis « C'est à cause de la foi que Jean exilé sur l'île de Patmos. » Alors que tous ses collègues avaient été martyrisés, pouvaient simplement continuer à écrire le livre de l'Apocalypse et des révélations que Dieu continuait à lui donner dans la fin de ses jours. C'est la foi. En fait, ce matin, je crois que Dieu nous demande simplement d'être ce que nous sommes. Nous disons que nous sommes des croyants. Alléluia. Alors Dieu nous dit, dans ce cas, croyez. Dans ce cas, ayez la foi. Mes amis, nous pouvons nous battre dans ce monde, dans ce système, parfois étant à la recherche d'un emploi, parfois étant à la recherche d'une régularisation administrative. Mais je dis que si nous nous battons avec le comportement et les règles de ce monde, nous n'aurons que peu d'efficacité car ce sont des armes charnelles. Or, l'arme que Dieu nous a donnée, l'équipement que Dieu nous a donné est puissant. La foi renverse les forteresses. Quelle que soit leur ancienneté, quelle que soit la profondeur avec lesquelles on les a créées, je dis la foi renverse les forteresses. Et Paul pouvait dire, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de sa parole. La foi, c'est cela que Dieu te demande. Si tu as mené pendant de nombreuses années un combat qui t'a fatigué et qui t'a lassé. Aujourd'hui, l'opportunité t'est donnée de choisir le bon combat. Ce combat, je vous l'ai dit, c'est celui de la foi. Et peut-être que tu es là ce matin et que tu dis, moi, je veux mener le combat de la foi. Je veux parler à toutes les personnes qui n'ont pas encore confessé Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, en leur disant, arrêtez de vous fatiguer dans des faux combats. Arrêtez de vous impliquer dans les mauvais combats. Car il n'y aura pas de fin à cette lassitude. Au combat que vous terminerez aujourd'hui succédera un nouveau combat demain. Et vous pouvez choisir aujourd'hui de briser la chaîne. Choisir le combat de la foi. Accepter le joug doux et léger que Jésus-Christ veut déposer sur vos épaules.